de l'être avec Marie-Lou Brousseau.
Mesdames et messieurs, bienvenue au Cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau pour vous accompagner en compagnie de Henri Lintz à la mise en onde. Aujourd'hui, je reçois Luis Gomez. C'est une émission qui va être assez particulière. Alors, Luis Gomez est un professeur à l'Université du Québec à Rimouski au département de psychosociologie qui est aussi mon co-directeur de recherche. Et il y a quelques mois, j'ai sorti un livre qui s'intitule « Kintsugi ». Et comme ça, à la blague, il m'a lancé « Qui va t'interviewer, Marie-Lou, au cœur de l'être ?» Et moi, de répondre avec une rapidité incroyable, sans réfléchir, peut-être malheureusement, je ne sais pas encore, j'ai dit « Ah ben, c'est toi !» Et bon, de fil en aiguille, cette idée-là qui est partie un peu d'une manière ludique s'est concrétisée. Voilà que Luis s'en vient aujourd'hui m'interviewer. Et je dois avouer que je me sens dans les chaussures de ceux qui habituellement sont interviewé, c'est-à-dire quelque peu nerveuse, mais je pense que ça va très bien aller. Alors, bienvenue à Radio-VM, Luis Gomez.
Merci, Marie-Lou Brousseau. Merci de m'avoir invité dans cette émission spéciale, vraiment spéciale. Oui. Pour moi, c'est une première aussi, vraiment. Et de vous inviter dans votre émission pour parler de votre œuvre aujourd'hui, c'est pour moi un grand privilège. Merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui te remercie parce que, bon, c'est pas tous les jours que ça se passe. Je pense que première fois que ça m'arrive. Donc, j'accueille aussi. C'est un geste quand même très généreux de ta part. Alors, je te laisse évidemment la parole, cher Luis.
Merci beaucoup. Marie-Lou, donc, comme tu viens de nous le dire, il y a un livre qui vient d'apparaître qui s'appelle Kintsugi. Et c'est un livre qui est signé Marie-Lou Brousseau.
Oui.
Et parle-nous un peu de c'est quoi ce livre, d'où il vient, qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire?
Ben, il y a plusieurs raisons. En premier, Kintsugi, dans la langue japonaise, au niveau de la phonétique, il n'y a pas de G. Le G est absent, donc on dit vraiment Kintsugi. Alors, ce n'est pas grave si les gens demandent à la librairie Kintsugi, là, il n'y a pas trop de problèmes. Kintsugi est venu dans le cadre de mon programme d'études en études et pratiques psychosociales à l'Université du Québec à Rimouski. Et il y avait... on devait trouver notre problématique personnelle parce que l'étude des pratiques psychosociales, on prend finalement une distance critique par rapport à notre manière habituelle de voir, de vivre, d'envisager notre pratique. Et ma pratique personnelle, évidemment, à part évidemment d'être animatrice de radio, c'est aussi d'écrire. Donc, je suis écrivaine depuis... j'allais dire des milliers d'années parce que ça fait tellement longtemps que je me souviens pas de la première fois que j'ai écrit. Alors, c'était une façon pour moi d'analyser aussi une problématique personnelle qui est un schéma de répétition, de fuite. Et c'était de savoir comment l'autofiction, donc ma pratique d'écriture, pouvait m'accompagner dans la résolution de cette problématique-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'écriture et ma directrice de mémoire, Jeanne-Marie Ruguera, m'avait dit « Écoute, pourquoi ça serait pas quelque chose que une espèce d'initiation où tu rencontres un grand maître? » Évidemment, moi, on sème une idée à l'intérieur de moi et ça y est, mon imaginaire part très vite.
Oui, parce qu'en effet, il s'agit de toute une quête. Le livre nous raconte ça. C'est une quête, on peut dire initiatique, à la rencontre de ce personnage, Kintsugi.
Oui, voilà.
Et puis, dans son monde, vous me corrigerez si je me trompe, dans une grande montagne qui s'appelle Kanchenjunga.
Kanchenjunga,
c'est oui. Ça a l'air que c'est quelque chose d'assez effrayant. Parlez-nous un peu de cette montagne.
Ben, c'est une montagne, en fait, qui est entre le Tibet autonome, qu'on appelle aujourd'hui parce qu'on sait ce qui s'est passé avec les Chinois, les Tibétains ont dû être expulsés. Et c'est vraiment entre le Tibet autonome et le Népal. Et se tient un grand mont qui s'appelle le Kanchenjunga. yoga, qui a aussi un autre nom qui s'appelle le mont de la gratitude. Et moi, je trouvais ça fort important parce qu'il y a une part de moi qui est remplie de gratitude par rapport justement à ce programme d'études à l'Université du Québec à Rimouski qui me permet d'apprendre une nouvelle forme d'écriture, entre autres l'écriture performative dont on va sûrement parler en cours de route. Et je voulais aussi que ce soit un mont, pas je voulais, mais ça c'est venu. Et c'est là que j'ai réalisé que ce mont-là était pas très, très facile d'accès. Et ça ressemblait un peu à quelqu'un que je connais, tu sais, qui a des fois difficile, qui c'est très difficile d'accès parfois, d'aller à l'intérieur de soi et de gravir des échelons pour se rencontrer véritablement. Donc, c'est un petit peu ça, le mont Kanchenjunga.
Oui, parce que dans cette autofiction, l'héroïne Marisha,
oui.
Elle prend la forme d'un personnage assez quand même qui aime ça, se lancer dans l'aventure, dans un peu les dangers même. Puis escalader ces monts-là, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant comme défi. Mais en plus, et votre histoire commence d'une manière très intéressante. C'est une femme inconnue qui vous approche. Ouais. Elle s'appelle Wang Ying.
Ouais.
Puis tout à coup, elle vous propose quelque chose.
Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans la vie, on a plein à tous les jours des propositions. Et bon, évidemment, c'est une fiction, c'est une auto-fiction, donc on s'entend que c'est un personnage. Mais moi, quand j'écris, on dirait que les choses arrivent, les gens arrivent et je ne les refuse pas. Et c'est ça qui est intéressant, de ne pas refuser de voir ce que mes personnages intérieurs ont à me dire. Et elle est arrivée dans une bibliothèque, donc un lieu de livres, un lieu de silence, pour me parler d'un voyage qui pourrait changer ma vie. Et c'est effectivement un voyage. Bon, c'est sûr que ça ne change pas toute la vie, mais ça change sa façon de voir, de rencontrer, de se rencontrer et de se rencontrer aussi dans le regard de l'autre. Et ça a été un travail, même si on dit que c'est un travail qui est très solitaire, l'écriture. On est chez soi. J'étais tellement avec mes personnages que je vibrais comme si j'étais en présence physique de ces personnages-là.
Et pourtant, c'est un roman, une autofiction pleine de personnages.
Oui.
Et vous dites, au début de cette aventure, avant même que Marisha s'engage dans cette aventure, vous dites que cette quête-là, dans les mots de Marisha, mm-hmm. je cherche depuis si longtemps à donner un billet à les simples vers le néant à mes chagrins traversés d'angoisse existentielle.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ces voyages?
Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, quand on part en voyage, on part toujours avec un billet aller-retour. Et là, je me disais, moi, quand je pars en voyage, je pars avec un bagage, je pars avec des valises qui sont remplies de tout ce que je porte à l'intérieur de moi. Il y a les bons côtés, évidemment, mais il y a souvent, c'est dans la fuite. Donc, ce que j'emporte n'est pas nécessairement joyeux et heureux. Et ce que je voulais à travers l'écriture, c'était, j'avais un mandat, mais tu sais, est-ce qu'on se rend au bout du mandat, je ne sais pas, je commençais et c'était en écriture performative. Mais ce que je voulais, c'était de me départir en chemin de tout ce qui est de la lourdeur en moi et qui m'empêche d'être ce que je suis vraiment fondamentalement et d'être dans toute mon authenticité par rapport à l'autre au lieu d'être toujours dans la fuite. Et c'est un défi très important. Et en même temps, c'est pour ça peut-être que j'ai pris inconsciemment le symbole d'une montagne très difficile à gravir, parce que pour moi, c'était une de mes problématiques importantes de ma vie. Et je voulais me délester de ce poids-là en chemin.
On dit que dans un roman, et les différents personnages qui jouent dans le roman, dans la fiction, sont partie de soi, une partie de l'auteur. Et Marisha, dans le début de son voyage, est accompagnée par un sherpa, un guide, qui s'appelle, si je prononce bien encore, Dorje.
Dorje.
Voilà.
Mais c'est très bien aussi.
Oui.
Oui.
Et puis, parlez-moi de ce personnage, qui il est.
Moi, pour moi, Dorje, c'était un personnage qui, encore là, est arrivé inopinément, mais heureusement, parce que je me dis, évidemment, les grands escalateurs, j'ai pas le mot, là, mais alpinistes, voilà, sont toujours accompagnés de Sherpas, parce qu'on connaît pas les sentiers, on connaît pas les séracs qui peuvent tomber à tout instant, on connaît pas les dangers d'une montagne, tout autant qu'on ne connaît pas les dangers de soi envers soi. Alors, je me suis dit, être accompagné est très important, tout comme c'est important d'être accompagné quand on fait un travail sur soi, quand on est à la maîtrise, entre autres, justement, où on va toucher des points qui sont plus sensibles, plus faibles, qui ont besoin d'une résonance extérieure pour nous rendre plus forts. Alors, j'avais besoin de ce Sherpa-là qui me guide, en tout cas, qui me rassure dans la première étape de la montée. Et Dorje, on le verra à la fin, je ne sais pas si on le dit, mais enfin, on verra à la fin qui il est vraiment. Évidemment, tous ces personnages-là sont des parts de moi. Il y a des parts qui sont très sages, il y a des parts qui sont très lumineuses et d'autres qui sont absolument horribles, qui sont dans l'ombre et qui se nourrissent de l'ombre aussi à certains niveaux.
Et ce Sherpa, il va vous accompagner presque jusqu'au début de l'ascension que vous avez nommée. Et là, je veux que vous me parliez de cette expression-là. Vous arrivez en bas de la montagne, puis tout à coup, il y a une grande paroi, un gros mur qui se dresse devant vous et vous dites, mon Dieu, ce mur de glace est dangereux. Est-ce que je vais y laisser ma peau? Et cette paroi, et dans cette évocation-là, vous dites, en quelque part, c'est l'image de mon mur intérieur.
Oui.
Parlez-moi de ces murs de glace.
Oui, c'est ça. C'est que souvent, dans la vie, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là de la répétition, c'est que souvent dans la vie, on se heurte toujours au même mur. Et souvent, avec les années, ce sont des blessures intérieures qui sont, j'allais dire, entreposées, mais en tout cas, qui sont encapsulées à l'intérieur de nous et qui sont, en tout cas, je pourrais quasiment dire qu'il y a une couche de glace qui s'est formée autour parce qu'on ne veut pas être approché. En tout cas, moi, je ne voulais pas m'approcher de ce lieu. Là. Donc, c'est pour ça que le mur avait pour moi, quand je l'ai vu arriver dans mon roman, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mur? Et tout de suite, il y a eu évidemment une analogie à l'effet que ce mur-là, il est en dedans de moi. Et si je le perçois dans mon écrit, si je le nomme dans mon écrit, s'il surgit dans mon écrit, c'est qu'il y en a un à l'intérieur de moi. Et le sentiment d'y perdre ma peau était quand même très gros. Mais en même temps, c'est quand même une escalade d'une paroi à pic qui est quand même très haute et qui est glacée avec des séracs et tout ça. Et je me disais, parce qu'à la fin du livre, je fais une partie où c'est l'analyse de ce que j'écris en écriture performative. Et je me disais, mais quel est ce mur-là à l'intérieur de moi qui fait que dans ma vie, je me heurte à répétition à un mur qui, à l'intérieur de moi, m'empêche d'être qui je suis véritablement. Et souvent, des fois, on peut y laisser sa peau à ne pas vouloir avancer.
Et en fait, vous ne l'escaladez pas tout de suite.
En plus, quant à faire difficile, faisons difficile.
Oui. Parce qu'en plus, il y a toute une tempête qui se déchaîne, il y a des signes, des dangers qui viennent aussi des éléments.
Mais ça, c'est important parce que je réalise, même maintenant en parlant, que souvent, quand on arrive près d'un but, quand on arrive à une résolution d'un conflit, on se trouve devant un mur, devant une tempête et on arrête. Et souvent, on reste à la même place et on tourne autour de la même place. Et je me suis rendu compte que cette tempête-là m'immobilisait, comme je me suis toujours immobilisée dans ma vie. J'ai fait quelques efforts qui m'ont valu quelques larmes et quelques tremblements, mais quand même, il y a cette part de moi qui est une enfant tremblante, mais il y a aussi la part de moi qui dit « Vas-y, Marie-Lou, vas-y, même si tu trembles, même si fais quelque chose. » Mais il y a aussi cette part de moi qui est comme au centre, Et qui hésite entre est-ce que je vais aller me faire mal encore, est-ce que je vais encore souffrir, est-ce que je suis pas mieux de rester sur place. Et je pense que c'était ça finalement la symbolique de tout ça.
Et en fait, votre but en ce moment, c'est d'arriver en haut de la montagne, dans une sorte de monastère qui vous attend, qui avait été annoncé déjà par Guanyin.
Ouais.
Et là, vous devez rencontrer quelqu'un.
Oui.
Que vous ne connaissez pas.
Non.
Que vous vous imaginez. Et c'est qui ce personnage? D'où il sort? Quelle partie de Marie-Lou est ce personnage qui va rencontrer et qu'il ne connaît pas?
C'est intéressant comme question. Je ne sais pas vraiment. En fait, c'est probablement... Je pense qu'en chacun de nous, il y a cette partie qui est d'une sagesse infinie, qui sait avant même que nous, on prenne le temps de s'installer pour regarder à l'intérieur de nous et de soi et de dialoguer avec cette partie de nous qui est d'une sagesse infinie. Moi, je relisais justement pour cette entrevue. Je me disais, mon Dieu, j'ai écrit ça. Parce que quand c'est écrit vraiment sur l'instant. Il y a pas de mental qui arrête le processus. Donc, Kintsugi, c'est un sage. Il y a pas sa barbe, il y a pas des petits trucs. C'est un être qui est simple, qui est d'une grande beauté intérieure et d'une grande sagesse, mais qui est très rieur, qui est très joyeux et qui, à travers ce personnage-là, vient me rappeler qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi un joyau. Il n'y a pas juste la petite fille qui a peur, puis il n'y a pas juste tous mes problèmes que j'ai vécu, puis tout mon passé qui est lourd, etc. Il y a aussi un espace à l'intérieur de moi qui est très grand, qui est très beau et auquel je ne me donne pas le droit d'accès assez souvent. Je sais qu'il existe, mais de le rencontrer sous... Tu sais, quand je parlais de distance, de mettre une distance, c'est, à un moment donné, ça permet la vision, je pense, et l'introspection également. Mon beau Louis, on va aller en musique, si tu veux bien.
Bien sûr.
On va écouter une chanson de Bobby Bazzini qui s'intitule « C'est la vie ».
Somebody gave you a gun, looked just like the sun, shines so bright with its blinding light, and you never saw it coming. Now you're just like a fallen angel crying in the rain. Somebody gave you a gun. You're not the only one. Love can lift you up and bring you down, down, down. Now you're wondering why it hurt. Oh, say like sometimes you gotta let things be. You can fight it if you want to. There's nothing you can do. Let it go when love will set you free. Oh, let it go when love will set you free. Let it go when love will set you free. I'm not the best to give advice, 'cause I've been hurting. Set you free. Yeah, let it go when love set you free. Oh, let it go
Alors, une très belle chanson de Bobby Bazzini, C'est la vie. Je suis en compagnie de Luis Gomez. Et bon, renversement de situation, de rôle, c'est-à-dire Luis est ici pour m'interviewer sur mon plus récent ouvrage, Kintsugi, qui a été publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, encore une fois, je te laisse la parole. Que tu fais très bien, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Ça me rassure.
Oui, écoute.
Alors, Marie-Lou, je voulais, avant de continuer sur Kintsugi, il y a quelque chose qui est... Parce que vous ne les rencontrez pas tout de suite, de toute manière. Vous arrivez au monastère, vous rentrez, mais vous ne les rencontrez pas tout de suite. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose encore qu'il faut qu'il se passe. Puis on dirait que c'est... Obstacle après obstacle. Donc, parlez-moi de ces derniers obstacles avant la rencontre des Kintsugi.
Ah ben oui, je ne sais pas si on parle du même obstacle, mais du fait que, bon, je suis épuisée. J'ai les pieds endoloris, meurtris, saignent, enfin, c'est fou. Et Dorje, qui est le moine là-bas. Pas Dorje, pardon, je me trompe, là, je me souviens même plus de son nom. En tout cas, un des moines qui est là vient soigner mes pieds. Et il le fait avec une telle délicatesse et une telle bonté que je suis comme ébahie de recevoir ça. Et il m'offre un souper qui est très, très sympathique, là, des pois chiches, enfin bref. Et après, moi, je pense qu'il m'amène à Kintsugi parce que c'est quand même ça le but. Et finalement, non, j'ouvre la porte de la pièce où on arrive devant. Et c'est une chambre, une petite chambre toute chaude, chaleureuse. Et tout ce que j'ai envie, c'est de dormir, évidemment. Alors, je me couche et voilà que le lendemain arrive.
Okay. Parlons de ce lendemain, alors.
Oh là, oui. Alors, ce lendemain, le fameux moine revient à ma porte et là, ah oui. Tu vois comment je peux occulter facilement.
Oui, je vois bien.
Ah oui, c'est ça.
Mais vous allez arriver.
Ah oui, ah, tu vois, pas pire. Je viens de voir l'obstacle arriver.
Oui.
Moi, je pensais que c'était les pieds. Ah, non, oui. Pas du tout. Alors, c'est ça. Donc, moi, comme je disais que ma problématique était le schéma répétitif de fuite. Alors, il m'amène au réfectoire et là, je fige à l'entrée parce que là, je réalise que, comme si je l'avais jamais réalisé, même dans l'écriture du livre, pendant l'écriture du livre, que finalement, il n'y a pas juste Kintsugi dans un monastère, il y a plein de gens, il y a plein de moines et ils sont tous là rassemblés, ils se tournent vers moi, ils me sourient et je fige littéralement. Et là, tous les symptômes associés à la fuite, à l'évitement, montent en moi à une vitesse folle et je réalise que ma problématique, elle n'est pas juste en bas de la montagne, mais elle me suit partout. Et quand je dis je veux donner un billet simple à mes problématiques, ben c'est un petit peu ça. Sauf que quand on se trouve devant une situation qui est paralysante, handicapante, on n'a pas nécessairement toujours le réflexe de dire bon, ben on, puis bon, on va passer au travers. On est confronté directement à l'émotion qui monte à une vitesse fulgurante. Et elle a monté pas seulement dans mon livre, pendant l'écriture, mais vraiment en moi où je me sentais que j'avais les symptômes de ça. Comme quoi, on en parlera sûrement tantôt, l'écriture performative, ce qui n'est pas une écriture performante, mais une écriture qui est à première personne, au singulier, tout ça, qui nous permet d'entrer dans des zones à l'intérieur de nous qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est pas l'écriture performative, ça c'est pas avec la tête que ça s'écrit, c'est avec le cœur, les émotions, notre cheminement, tout ce qu'on a pu vivre et qui se traduit par des mots remplis. C'est pas des mots vides. Voilà.
Alors, vous voyez, chers auditeurs, nous avons déjà tous les drames là et tous les obstacles sont là et elle a réussi à se rendre au seuil de Kintsugi.
Oui, c'est bon.
Et là, on est prêt pour le grand voyage.
Oui.
On est prêt pour le grand voyage, on est prêt pour commencer donc à s'habiller sans retour.
Ouais, à ce billet, c'est vraiment ça. C'est bien dit. Oui, parce que quand j'ouvre la porte, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis surprise de la présence de cet homme-là, de sa douceur, de sa bonté, de son petit rire d'enfant. Et en même temps, c'est comme si moi j'arrivais devant lui comme un élève arrive devant un maître, alors que lui me fait voir que finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est un petit peu un petit choc, mais de réaliser que finalement, on est tous égaux en quelque part, on a chacun nos paliers à franchir, mais qu'il est là pour un partage avec moi et un échange, et dans lequel évidemment, sa sagesse transpire. C'est normal parce qu'il a atteint certains niveaux intérieurs incroyables. Alors, c'est ça, c'est un échange... un échange qui va aussi droit au but, parce que moi, j'ai tendance à aller dans telle direction, à poser des questions, et finalement, lui me ramenait à me dire, oui, bon, ça va, mais toi, c'est quoi tes plus grandes joies? Alors que moi, je vais lui parler de mes plus grosses peines, de mes plus grosses problématiques, et là, je me dis, bon, attends, c'est une diversion, ça. Est-ce qu'il veut m'amener ailleurs pour mieux m'amener là? Ou si tout simplement, c'est ça, prends ce qui est là, à ce moment-là, point. Et je me souviens de ma réaction, même en l'écrivant, comme quoi, on s'en va pas à la... Je savais pas où je m'en allais, là. Tu vois, c'est vraiment à plein de niveaux, cette histoire-là, parce que il y a l'écrivain qui écrit, il y a la plume, il y a les personnages qui surgissent et qui me mettent en réflexion. C'est un échange de résonance avec un aspect, quelque chose de l'invisible, tu sais.
Il y a quelque chose dans le dialogue avec Kintsugi, on voit Marisha prendre des fois les rôles évasifs, commenter dans sa tête les questions qu'il pose le maître, être des fois surprise, mais des fois aussi, elle ose interpeller, elle ose essayer de tourner ça au rire aussi.
Oui, oui.
Et il y a des échanges qui sont délicieux entre le maître et Marisha.
Oui.
Et parlez-moi de ces dialogues. Parce que si on reste encore dans l'autofiction, des personnages qui sont partis de vous, comment ça se passe au moment de l'écriture? Vous dites performative.
Oui.
Comment ça se passe au moment de l'écriture pour avoir cet échange entre la part de la sagesse, la part souffrante, la part qui évite et la part qui sait poser des questions?
Oui.
Parce que la Marie-Lou que nous connaissons, c'est la Marie-Lou qui fait les entrevues.
Oui, c'est ça.
Alors, aujourd'hui, elle répond à des questions. Et donc, elle joue un peu Marisha.
Oh!
Mais en même temps, elle a la sagesse en elle. Parlez-nous de ça.
Alors, écoute, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je ne le sais pas. Mais en même temps, il y a une part de moi qui le sait. Alors, c'est très, très difficile à exprimer. Parce que quand j'écris, il y a quelque chose de la bulle. J'ai l'impression d'être en transe. C'est un peu bizarre parce que je veux pas inviter tout le monde à être en transe pour écrire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui se dépose, qui s'installe, et j'écris, et le personnage me répond, et j'ai vraiment, c'est comme un film. Je sais pas comment les scénaristes font pour écrire un film, mais j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, et qu'à l'intérieur de soi, il y a une question qui est posée, et il y a une part en moi qui répond tout de suite. Si j'attendais, si je mettais un délai entre la réponse, je sais pas, moi, je vais aller me chercher un café, tout à coup, oups, j'ai un lavage à faire. Tu sais, des fois, ça peut être un peu confrontant, les questions. Quand je reviens, je me rends compte que j'ai perdu le fil. Donc, c'est vraiment de rester en présence. Quand le dialogue était là, je ne le lâchais pas. Moi, je décroche toujours le téléphone. Je suis en retraite d'écriture et je laisse les personnages. C'est comme s'il y a deux parts de moi qui ont envie de se connaître et qui ont toujours été en distance à l'intérieur et qui tout à coup, ils ont une possibilité de se dire et de se rencontrer et de se parler. Et là, je sais pas comment ça se passe vraiment. Je voudrais tellement trouver des mots et même ça m'a questionné à savoir qu'est-ce qui fait que je réponds telle chose plutôt qu'une autre. Tu sais, si tu m'avais posé une question, admettons que tu aurais été Kintsugi et que tu m'aurais posé une question, peut-être que ma réponse aurait été différente parce que je suis pas dans la même, je suis pas dans l'énergie de l'écriture, je suis dans un autre espace où peut-être que mon rationnel serait plus présent. Tandis que dans l'écriture, il y a plus personne. Je, comme on dit en bon québécois, je me lâche lousse. Tu sais, je laisse être tout ce qui monte, quitte à après éditer tout ça, à réviser ce que j'ai envie de laisser passer dans le monde, parce qu'il y a quand même des choses très, très personnelles et j'en ai quand même laissé passer beaucoup. Mais je suis sans censure. Et peu importe ce qu'il va dire, moi, je réponds spontanément. Alors, c'est ça qui fait peut-être la richesse du dialogue là-dedans, c'est qu'il n'y a pas la censure et je fais juste répondre. C'est comme si je me posais une question puis j'y répondais tout de suite. Mais je sais profondément que c'est à partir d'un autre lieu en dedans de moi que je réponds. Est-ce que ça répond à ta question?
C'est justement sur ce lieu, cet autre lieu que je m'interroge dans les cas de cette autofiction, parce que il y a quelqu'un qui a déjà dit un auteur ne peut pas aller au-delà de lui-même. Donc, ça veut dire que ce qu'il écrit est vraiment lui-même, ce qu'il connaît, ce qu'il vit, ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a expérimenté. Et dans ce cas-ci, la sagesse... Et qui est là, elle était quand même, c'est la sagesse de l'auteur quand même. C'est la sagesse de Marie-Lou.
Ouais.
Peut-être pour vous dire, je vais vous dire peut-être une petite phrase qui est comme une espèce de leitmotiv et pendant tout votre roman et qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et on dirait que c'est comme la clé d'interprétation que vous donnez à votre livre. Vous dites, on vous le dit à vous parce que vous ne le dites jamais, Marisha ne le dit jamais, mais au moment donné, elle va finir par le comprendre. Là d'où tu viens est la clé que tu cherches tant, car c'est là où tu es.
Oui. Et ça, c'est arrivé, c'est comme... même la question m'a même interpellée pendant des jours et des jours parce qu'elle est venue tellement spontanément. Et je me disais, mais vraiment, là, c'est quoi cette phrase-là? Et tu sais, j'ai un parcours qui est très long et très profond et très vaste. Et j'ai lu beaucoup, j'ai étudié beaucoup, j'ai été dans des ashrams, j'ai fait un peu le tour des grands sages, tout ça. Et il y a quelque chose qui s'intègre, évidemment. Mais je pense que oui, on peut aller au-delà de l'auteur, contrairement à ce que les gens t'ont dit. Je sais pas, moi, c'est ma perception. C'est que j'ai l'impression que... Tu sais, ces grands maîtres là que Kintsugi, mais c'est pas lui, je voulais dire Krishnamurti, ils ont eu quelque chose qui est venu de l'extérieur ou je sais pas de où là, ou si on parle des rishis voyants à l'époque qui ont été capables de recevoir les Védas puis les Upanishads, ils avaient une ouverture et je pense que quand on est en écriture performative, il y a quelque chose qui est ouvert, il y a quelque chose qui permet une rencontre avec quelque chose qui est plus de l'ordre de l'invisible. Là, ça fait un petit peu Twilight Zone, mais je ne sais pas comment te le dire autrement parce que ça vient tout seul et c'est quand je l'amène à mon mental et à ma réflexion que je réalise que, oh wow, c'est... Et cette phrase-là que tu me dis, j'ai vraiment pendant des jours et des jours, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Parce que si tu veux la répéter, c'était...
Et là d'où tu viens est la clé que tu cherches tant, car c'est là où tu es.
Alors, tu vois, ça parle encore de cette espèce de milieu. Il y a là où tu étais, donc le passé, et il y a là où tu veux devenir, mais il y a aussi ce milieu-là où tu es, qui comporte ces deux parties-là, tu sais. Il y avait Gautama Siddhartha, Bouddha, qui avait dit, quand il avait vu, bon, il était sous l'arme de la Bodhi, puis il avait connu la luxure, il avait connu plein de degrés de richesse, puis il s'est retrouvé dans la plus pauvre des pauvretés, à mendier et tout ça. Puis à un moment donné, il y a vu une barque passer, puis il y avait un père qui disait à son fils, « Si les cordes de ta guitare, de ta sitar sont trop serrées, elles vont éclater. Si elles sont pas assez serrées, si elles sont trop lâches, elles ne résonneront pas, puis le juste milieu. » Et c'est là qu'il s'est élevé, qu'il y a eu cette espèce d'illumination, puis qu'il s'est dit, « Ah, voilà, j'étais autant dans la richesse que dans la pauvreté, mais dans ma vie, c'est le juste milieu. » Et ce que Kintsugi me fait réaliser avec le temps, c'est que c'est ça que je fais dans ma vie, c'est que je passe autant dans mon côté ombre que de mon côté lumière, mais que je peux aussi valser trop souvent. Je vais en haut, je vais en bas, le yo-yo là, dont je parlais dans mon livre. Tu sais, je monte dans les hauteurs, je descends dans mes profondeurs, mais c'est d'en arriver à être capable de mettre les deux pôles dans, tu sais, à être dans le juste milieu. Parce que je crois pas qu'on peut être juste là ou on peut être juste là. On a cette capacité d'être dans le milieu. Et je sais pas si ça répond à la question de la clé, là.
Mais c'est en vous écoutant, je me pose la question. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez vécu une sorte de... Bon, appelons-le comme ça, j'aime pas le mot, mais illumination venue d'ailleurs, qui a fait naître en vous cette sagesse qui est la sagesse qui est dans ce livre, parce que c'est un livre de sagesse. On se comprend, en plus d'une fiction et d'une autofiction, c'est un livre de sagesse. Il y a énormément qui rentrent dans le corps de l'être, comme votre mission, puis aussi, et qui ont un processus de guérison. Et ça, vous dites, est venu d'ailleurs ou des profondeurs de l'âme?
Ben ça, c'est intéressant. Je prédis les deux parce que je sais pas quel est cet ailleurs. Est-ce que cet ailleurs est à l'intérieur de moi? Est-ce que cet ailleurs... Parce que moi, quand je suis en méditation, j'ai l'impression d'être plus large que la Terre, tu sais. Puis en même temps, j'ai l'impression que toi, tout comme ennui, tout comme moi, à partir du moment où on se met dans un état de réceptivité, tout est là. Et il y a quelque chose qui vient nous instruire de l'intérieur. Bon, voilà, tu vois, j'ai la réponse. Ça vient de l'intérieur, voilà. Donc, tu vois, ça vient nous instruire de l'intérieur et ça vient se verbaliser. Dans mon cas, c'est beaucoup plus facile par l'écriture que devant une classe.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites à Kintsugi.
Oui.
Je vais finir par les dire bien.
C'est correct.
C'est ça que vous allez lui dire, que finalement, votre mode d'expression, c'est l'écriture. Et ouais. Vous lui faites quelques cadeaux d'écriture.
Oui, et encore là, ça s'est venu spontanément. Et parce que lui me faisait déjà le cadeau d'être là, de m'offrir ce qu'il était dans sa profondeur. Et moi, j'ai eu envie de lui offrir en retour quelque chose et je ne savais vraiment pas. Évidemment, il n'y avait pas rien d'autre sinon que l'écriture. Et l'écriture de contes, pour moi, c'est d'une facilité. Là. Ça se fait, tu me donnes un mot puis je te fais un conte. Là. Alors, j'ai décidé d'y aller encore là de manière performative. Mais ce n'est pas vrai ce que je te dis. Je reprends. J'ai pas voulu, inconsciemment, je ne l'ai pas fait en écriture performative jusqu'à temps que je réalise que je ne l'avais pas fait comme ça parce que je me créais une distance avec ma propre émotion, étant donné le contenu du conte, qui était aussi, qui s'appelle Vak, le garçon, le jeune garçon. Et Vak, en sanskrit, veut dire la parole exprimée, la parole qui dit, la parole qui ose. Alors là, c'est comme, assume, Marie-Lou. Et voilà, je l'ai réécrit et je l'ai senti plus, évidemment.
L'enfant à la voix d'or. Hein,
c'est l'enfant ça. À la voix d'or, voilà.
Et cette parole que vous représentez dans ces contes, que vous racontez et que vous donnez à Kintsugi, et fait aussi, parce que ça va revenir aussi beaucoup dans votre livre, la question du silence.
Oui.
Mais vous dites une phrase très belle quand même, parce que le silence... Et ça, je vous reconnais tellement. le silence semble être la voie vers le corps de l'être.
Le cœur de l'être ou le corps?
Le cœur de l'être.
Le cœur. Toi, je me souviens plus ce que j'ai écrit. Alors, tu redis, le silence, c'est comment?
Le silence semble être la voie vers le cœur de l'être,
ah oui,
comme
oui.
Le nom de votre mission.
Oui. Il y a comme une suite hein,
donc,
dans la vie.
Si le silence est aussi la voie vers ce centre de l'être, et la parole, elle devient quoi à ce moment? Donc, c'est l'expression de l'être.
Écoute, c'est ça. Bravo, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une parole qui vient du cœur de l'être et pas une parole qui vient de la tête. Et c'est pour ça que je trouve formidable cette forme d'écriture-là, parce que pour moi, le silence est la forme la plus pure de rencontre avec soi. Et c'est tellement fort qu'on le verra dans le chapitre 9, je ne sais pas si je vais trop vite, là, mais que c'est dans les moments les plus silencieux où justement il n'y a plus de résistance que ce qui est là peut surgir, mais autant ce qui est là, qui est de la souffrance, qui relève de la souffrance, ou qui est là et qui relève de la beauté, de la bonté, de la générosité. Tout est là. Donc, pour moi, le silence, c'est le cœur. Et plus on rejoint le silence, plus on se permet des pauses de silence dans sa vie. Et même dans des conversations, on le fera pas ici, là. Mais même dans des conversations, accepter qu'il y a une pause, accepter qu'il n'y a rien à dire. Des fois, ça peut être très difficile de l'accepter. On a besoin de combler ce vide-là, on a besoin de dire, on a besoin. Et c'est pour ça que moi, quand je suis très silencieuse dans un groupe, j'entends beaucoup, par exemple. Mon oreille s'est développée beaucoup. J'entends aussi autant la peine, les souffrances, que l'orgueil, que j'entends ce que je suis aussi, là. Tu comprends? Ce sont que des résonances qui sont autour de moi, mais qui me permettre de capter l'humain dans une autre forme, dans une autre dimension de son être. Et moi, je dis, j'ai envie de dire, parce que dans le fond, ça m'aide un peu, que c'est fun aussi que les professeurs permettent le silence de certains étudiants qui n'ont pas envie de parler. je parle pour ma patrie. Mais en même temps, si ce silence-là est plein de peur et de tout ça, je pense que c'est aussi important pour le professeur de permettre la parole et de permettre un espace sécuritaire pour que ce vague-là s'exprime, vague étant la parole.
Et on va vous poser souvent la question pendant les entrevues avec Kintsugi et à chaque fois, vous allez l'éviter.
Ah bon?
Et jusqu'à la fin, presque. Et c'est finalement, où est ton passé?
Oui. Ça, c'est une question qui est tellement fondamentale. Où est ton passé? Puis c'est sûr que, tu sais, c'est facile de dire, ben oui, il est ici et maintenant, il est là, il me suit, il me traverse, il m'agit et j'agis à travers mon passé qui est dans mon présent. Mais en même temps, c'est tellement fluide, le passé, c'est tellement plus là, tu sais. C'est juste que le passé, en fait, pour moi, en réalité, le passé n'est plus. Il n'est pas là, il est fini. Sauf que ce que j'ai ramassé de scories, de blessures, de bonheur, tout ça, ça, je l'ai incorporé en dedans de moi. Et c'est ça que j'amène avec moi dans mon présent et qui me fait dévier souvent de ma route, qui m'empêche d'être dans l'authenticité, qui m'empêche d'être réel avec l'autre, d'être dans ma vulnérabilité, ma fragilité. Mieux vaut fuir qu'on me voit, tu sais. Et il y a aussi tout l'aspect du regard dans ce livre-là. Donc, il y a vraiment c'est la tête, mais en même temps, c'est toute la partie plus invisible, tu sais. Qu'est-ce que le regard de l'autre me fait? Qu'est-ce que la parole non dite pourrait permettre comme relation avec l'autre? En tout cas, c'est un grand détour de l'être.
Puis,
donc, ouais, oui, est-ce que tu veux qu'on pourrait aller en musique?
En musique,
on va écouter un chant sanskrit parce que quand même, dans ce livre-là, on en parle beaucoup du sanskrit. Et c'est un chant que j'ai même écrit dans ce livre-là parce que c'est un chant de protection. Et un chant, ça peut être CHAMP, comme un chant de protection, mais en même temps, c'est un chant. Donc, ça s'appelle Om Shrim Rim.
Invitons-nous dans le silence de cette chanson.
Om Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapati Varaparadav Saravajanam Eva Shava Yeswa. Om Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapati Varaparadav Saravajanam Eva Shava. Sarvajanam eva shamaya swa. Thank you.
Oui, alors voilà, nous voici avec Luis Gomez, un excellent intervieweur, je dois admettre, et qui interview Marie-Lou Brousseau. C'est vraiment un échange incroyable. Merci beaucoup, Luis, d'être là.
Merci, merci Marie-Lou. Après cette pause avec cette musique qui nous invite à la méditation, je pense qu'elle nous met vraiment au cœur de la question que je voulais poser depuis le début.
Voilà.
Et même, je veux dire, nous avons parlé des silences, nous avons parlé des quêtes, nous avons parlé de ces chagrins qui t'a mis en marche vers cette quête-là dans ce livre, dans son écriture performative, que tu as vécu et véritablement comme une initiation. Tu vas en parler de l'initiation dans le livre. Puis là, il arrive le moment de la résolution ultime. Tu es à... Kim Gunsi t'avait donné deux missions, il me semble.
Oui.
Et dit, la première, tu sais, c'est laquelle.
Mm-hmm. Oui.
Et la deuxième, bon, il explique, ça donnera après naissance à autre chose. Mais... je vais rester dans la première mission. Et cette mission-là, tu la sais.
Bien sûr.
Et Marie-Cha le sait.
Oui.
Et vers la fin de son séjour, elle arrive à la porte du réfectoire des moines.
C'est chaud, là.
Puis, elle va décider d'entrer. Mais quand elle vient pour ouvrir la porte, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très important dans le livre. Et j'aimerais que ta voix... nous fasse les cadeaux de ces moments en lisant la partie de ton livre à la page 118.
Oui.
Dès la première phrase, donc, tu arrives et tu dis, tu commences à parler au début de la page 118.
Ah, c'est drôle, moi ça va jusqu'à 91.
Oui, je peux vous passer.
Ah oui, d'accord, c'est une très très bonne idée.
Alors, là, on s'échange des ordinateurs ici,
voilà,
en studio.
Merci. Et là, tu veux que je lise à partir du début? De ce que tu veux.
Oui.
Je lui
souffle
l'oreille.
Donc, elle est, pour mettre en contexte, et Marie-Cha est devant...
Oui, elle est devant la porte et elle se retrouve devant sa problématique qui est évidemment celle de l'évitement. Et ça a été très puissant, ça, comme chapitre, vraiment, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et il y a eu l'émergence d'un souvenir, je ne sais pas si je vais aller jusque-là, mais enfin, il y a eu l'émergence d'un souvenir occulté depuis tellement d'années, et au point même de me dire, mais comment peut-il être aussi clair au rappel? Comment je peux avoir autant les détails de ce qui s'est passé et avoir occulté ça pendant autant d'années? Alors, tu veux que je lise... alors, c'est ça, donc, je...
Alors, elle va se souvenir, ben, on peut le dire, c'est...
Oui.
Elle se souvient du jour où on lui annonce que sa sœur jumelle ne reviendra plus.
Voilà.
Et là, à ce moment-là, Marie-Cha voit la fille qui reçoit cette nouvelle, puis se voit face à face, et tout à coup, elle prend cette fille qui est elle-même dans ses bras et
Elle lui dit, je lui souffle à l'oreille, les larmes roulant sur mes joues. Wouhou! je vais rester centrée. Je suis là, ma belle. Je ne te laisserai jamais tomber, jamais. Je me fais dire ça à la radio. Tu aurais eu besoin de quelqu'un dans ce moment terrible. Personne n'était là pour ramasser ton insondable souffrance, pour la vivre avec toi, pour te consoler dans ce qui te frappait de plein fouet. Ce jour-là, tu as fermé tes clapets intérieurs, tes clapets vers l'autre, vers la vie aussi. Un grand vide s'est installé. Ta vie, déjà chamboulée, n'a plus été la même par la suite. Là, je ne sais pas si ça ne déroule pas. Là. Je ne sais pas comment dérouler ton truc. Là. Bon, enfin, je pense que tu vas le faire. Et puis, on continue.
Ici, les flèches.
Ah, ici, les flèches. Non, ça ne marche pas. Ça ne veut pas, vois-tu? Il y a des choses comme ça, des fois, dans la vie. Hein? Alors, voilà. Donc, un grand vide s'est installé. Ta vie, déjà chamboulée, n'a plus été la même par la suite. La rupture, la cassure, la séparation. Comment pouvais-tu comprendre cela avec la pureté de ton être à l'âge où la révolution adolescente faisait son entrée en toi. Je t'aime, ma belle. Je pleure avec toi ce départ, cette perte incommensurable. Et je sais pas... Ah oui, ça marche. Cette perte incommensurable. Bon, tu vois, j'ai été trop loin. Mes pleurs et mes sanglots reprennent de plus belle. Au bout d'un long moment, ils s'amenuisent pour ne laisser rouler sur mes joues que des larmes d'une tristesse indicible. Je comprends que tu aies pu douter des gens par la suite, que ta vie soit devenue un lieu où se battre plutôt que de vivre, que tu te sois enfermé à répétition dans la fuite et le silence, dans la peur de ce qui pourrait t'arracher tes bonheurs. Tu porteras toujours les séquelles, les cicatrices de cet événement dans les tissus de ton être. Je renifle, pleure de nouveau. Aujourd'hui, par contre, tu peux changer tes croyances, prendre ton temps. Tu n'as pas à tout régler ça maintenant. Dis-moi, aimerais-tu qu'ensemble nous fassions une œuvre d'art de nos brisures, que nous appliquions sur elle la méthode Kintsugi?
Voilà. Et vous, et là, nous, les grands secrets nous est révélé. Et les mots Kintsugi prend toute sa signification. Parlez-nous, premièrement, ce que ça signifie vraiment, l'art
ouais.
des Kintsugi, et comment elle s'est définie, comment elle s'est définie dans cette fille, cette Marisha, qui arrive déchirée, qui arrive en morceaux, et tout à coup elle trouve la clé qu'elle cherchait, et envoie son chagrin dans son billet sans retour.
Ah, c'est beau, hein? C'est beau, non, c'est très beau. Puis effectivement, je le vois encore plus en le relisant comme ça avec toi. Je vois à quel point, effectivement, c'est une œuvre d'art qu'on fait avec les mots, ce coulis de mots sur les plaies qui fait que je me guéris, que je guéris l'adolescente qui s'est vue séparée, qui s'est vue perdre quelqu'un, un être cher, tout ça. Et ouais, Kintsugi existe. Voilà.
Et qu'est-ce qui a donné comme œuvre recoller, mais aussi réinventer, recréer dans cette fille qui s'appelle Marisha? Mais à Marie-Lou, plus ouais. aussi.
Ça change le regard sur le monde, ça change la dynamique relationnelle avec le monde. Ça fait qu'on a, on regarde la peur en face, la peur de l'échec, la peur de la perte. Et souvent, l'évitement est une peur de la perte. Parce qu'on évite d'être en relation longtemps, on évite de créer des liens, parce qu'on a peur de la perte. Et c'est sûr que tout ça émerge à l'intérieur de ça, et tu dis, c'est sûr que c'est gros, parce que j'ai été comme des journées encore là à me demander qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est comme si ce que j'avais pas vécu comme deuil d'une présence proche, je l'ai vécu après coup, et dans l'écriture, et c'est phénoménal, et en même temps c'est bouleversant, en même temps ça chamboule tes journées, mais en même temps c'est comme si ça te dessine un chemin devant toi et ça te dit ok, ça c'est plus là, c'est encore comme on disait dans en quelque part, il y a des cicatrices dans nos vies, et on va toujours avoir ça, mais on sait qu'il y a un chemin nouveau qui se dessine et que ça fait partie d'une histoire qui n'est plus. Que je peux chérir la personne dans mon cœur, mais que je peux continuer aussi à vivre et à m'habituer, à apprivoiser l'autre. Pas apprivoiser l'autre, parce que l'autre n'a pas à être apprivoisé. Moi, m'apprivoiser en présence de l'autre. Apprivoiser ma façon d'être, ma façon d'entrer en relation, de vivre avec tout ce que je porte de séparation à l'intérieur de moi et de ne plus être divisé dans ma relation avec l'autre. Et c'est un grand parcours de vie et c'est pour ça que quand on s'est parlé au téléphone et que je t'ai dit en quelque part ça m'a sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie, c'est que l'écriture performative a permis, tu comprends, a permis ce cheminement-là et ça pour moi c'est un cadeau exceptionnel pour moi dans ma vie. Et je souhaite à tous les gens de mieux comprendre ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais, pas probablement, mais pas cet été, mais à l'automne, inviter Luis Gomez pour venir nous en reparler, peut-être plus en profondeur, et des effets que ça fait chez la personne qui écrit en écriture performative. Alors voilà, mon cher Luis, c'est à peu près tout le temps qu'on a. Malheureusement.
Okay, c'est dommage.
Oui.
Mais merci pour cette invitation. Merci pour cette parole. Merci pour ce livre.
Oui.
Et je vais juste dire aux auditeurs, le livre contient la recette aussi du kintsugi. C'était sa deuxième mission. On n'a pas eu le temps de l'aborder. Mais elle nous donne la recette, cette recette-là, de recoller le morceau dans son beau conte à sa manière.
Tout à fait. Namasté, Luis.
Namasté.
Merci. Et un beau merci à Ennui, à la mise en onde. C'était Marie-Lou Brousseau et je vous dis à la semaine prochaine.